Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 29 au verset 44. Jésus approche de plus en plus au moment où il va donner sa vie en sacrifice pour le salut de notre âme. Amen. Pas seulement pour le salut de ceux qui faisaient partie de sa génération, mais encore pour nous aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui souhaitent s'approcher de Dieu. Et le texte nous amène à ce moment où Jésus va faire une entrée, pas comme les autres dans la ville. Généralement, Jésus rentrera dans les villes et souvent en essayant de faire cela sans forcément créer trop de mouvements. Il guérit certains malades, il leur dit « ne dites rien ». Pour avoir la liberté de rentrer dans la ville d'une manière paisible, d'apporter la parole, de ne pas être forcément étouffé par la foule. Et là, il y a quelque chose qui se vérifiera une seule fois, parce que le Seigneur n'est pas venu pour se mettre en avant et pour chercher la gloire des hommes, mais venu pour accomplir la gloire de Dieu. Et le texte nous dit que lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, vers le mont appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ce maître leur dit « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, je vous le dis, s'il se taisait, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qu'il te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi, et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. En lisant ce texte, on a deux choses bien particulières. La première, c'est l'action et la manière où Jésus se prépare à rentrer à Jérusalem. Comme on a dit tout à l'heure, très souvent, Jésus essayait de rentrer sans forcément attirer le regard les uns et les autres. Ce qui l'intéressait, c'était pouvoir arriver dans le temple et là enseigner. Certes, en voyant la manière de Jésus d'enseigner, en voyant les miracles que Jésus accomplissait, très rapidement, la foule était autour de Jésus. Parce qu'il accomplissait des choses incroyables, merveilleuse. Déjà, il y eut un cas où, suite à des miracles que Jésus avait accomplis, ils étaient venus le chercher pour le faire roi, dit la parole de Dieu. Mais Jésus n'était plus là. Il était monté sur la montagne pour prier. Et les disciples sont partis à sa recherche en disant « Maître, mais tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Mais moi, je ne suis pas venu pour cela. Il faut que j'aille dans les bourgades, il faut que j'aille dans tous les villages pour annoncer le royaume de Dieu. » Et là, en lisant ce texte, on aurait le sentiment que finalement l'objectif a changé. On pourrait croire. Mais quand on connaît bien Jésus, on sait que le désir du Fils de Dieu, c'est d'accomplir pleinement la volonté du Père. Et là, il fait quelque chose, il envoie deux disciples pour aller chercher un petit ânon. Alors, comme titre au message, j'ai mis « Identifier les besoins ». Identifier les besoins. Le Seigneur dit à ses disciples « Allez à tel endroit, vous trouverez un petit ânon attaché, vous le détachez et vous le ramenez ». Alors, je voudrais vous inviter à imaginer la scène que nous venons de lire. Et à quelque part, on voit que Jésus sait très bien que quelqu'un va poser la question aux disciples. C'est prophétique. Il leur donne la réponse. Et il sait que suite à cette réponse, ben, il a le droit de prendre cet ânon. Ça a été prévu pour. Personne n'a jamais, encore jusque-là, eu l'occasion de s'asseoir sur cet ânon et de se faire porter. Il est, entre guillemets, sauvage, non ? Et là, Jésus envoie ses disciples. Alors, je me suis dit, bon, de quelle manière réagisserez-vous face à la demande de Jésus ? Quelle serait votre réaction ? Vous imaginez quelqu'un qui vient et qui vient se servir de vos biens. Et il vous dit, ben, le Seigneur en a besoin, le Seigneur, moi, je... Cet homme n'était pas forcément censé, c'est pas écrit, donc on peut pas dire ni pour ni contre, mais il dit qui ? Quel Seigneur ? Qui c'est ? Moi, c'est ma propriété, vous touchez pas, vous rentrez chez vous. Hein. Moi, je m'imagine que si quelqu'un rentre dans votre jardin et se sert de ce que vous avez, vous dites, oh, tu fais quoi là ? Tu laisses, d'abord tu sonnes à la porte, tu rentres pas comme ça chez moi, hein, y a un protocole. Mais là, on voit que tout passe comme une lettre à la poste. Mais je voudrais vous inviter aussi à vous placer à la place du petit ânon. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mettez-vous à sa place, mais ne vous sentez pas traité de petit ânon. Moi, je me dis, j'ai essayé de dire, le petit ânon, il est là, il est tranquille. Il a ses petites habitudes, non ? Il est attaché dans un environnement qu'il connaît très bien, il a ce qu'il a besoin, et là quelqu'un vient, quelqu'un d'étranger, il le prend, il dit maintenant tu vas servir. Alors qu'il n'avait jamais servi, c'est étonnant l'attitude de ce petit ânon, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'on connaît un peu le caractère. Quelle est la réputation des ânes ? Bon. Il y a deux aspects, parfois, on considère, alors je ne sais pas vous, mais moi je me rappelle du temps de l'école, on disait, fais attention, apprends autrement, tu vas devenir comme un âne. Tu resteras comme un âne. Donc à quelque part, on considère qu'il y a deux gros problèmes, c'est qu'il est têtu, et c'est qu'il n'est pas forcément réfléchi, n'est-ce pas ? Mais là, ce petit âne, il ne discute pas. Pourtant, il se voit détaché et amené loin du lieu qu'il connaît, loin de sa mère, qui jusque-là, ben, c'est la présence qui rassure. Il ne réagit pas de manière, je dirais, inconvenante. Et en plus, il va devoir porter sur son dos une personne qu'il ne connaît pas, et sans le savoir, il sera la monture du roi des rois. N'est-ce pas ? Bon. Alors je me suis dit, quand le Seigneur nous demande de le servir, avons-nous des craintes et des réticences ? Ou est-ce que, s'il nous demande quelque chose qui sort de notre zone de confort, qu'est-ce qu'on répond ? Est-ce qu'on agit, nous aussi, avec une sagesse incroyable, telle que ce petit ânon qui va se laisser conduire, malgré sa nature un peu sauvage ? Alors, est-ce qu'on est un peu sauvage ? Est-ce qu'on est un peu têtu ? Est-ce qu'on a parfois du mal à se soumettre à des choses qui viennent changer notre routine ? Et si le Seigneur désire quelque chose de nous, Sommes-nous prêts à répondre favorablement à ses besoins? Puisque, quelle a été la réponse des disciples à la question du propriétaire de l'anneau? Le Seigneur, on a besoin. Waouh! À quel moment, excusez-moi, Dieu a besoin de quelque chose? Moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois que Jésus avait besoin de rien. Même le jour où on vient lui poser la question, est-ce que tu vas payer tes impôts? Certes, pas de souci. Pierre, tu vas pêcher un poisson, tu prends, tu regardes dans sa bouche, il y a ce qu'il y a pour toi, pour moi, c'est réglé. Ah bon? Mais tu prends pas dans ta... Moi, j'ai pas besoin d'avoir un sac pour mettre l'argent. Quand Jésus demande quelque chose, est-ce qu'il l'obtient? C'est étonnant de voir que Jésus fait dire à quelqu'un, le Seigneur, on a besoin. Est-ce que le Seigneur a besoin de quelque chose aujourd'hui? Et d'ailleurs, pourquoi Jésus fait cela? Il ne nous force pas la main. Il nous présente le désir qui est le sien, que nous puissions participer activement à l'accomplissement de la prophétie que Dieu le Père a donnée. D'ailleurs, cette entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem, ça rappelle l'entrée du roi, puisqu'il était coutume que le roi, une fois qu'il était consacré roi, il se déplaçait dans la ville sur le dos d'un âne, d'un petit âne. C'était la monture du roi. C'était pas un destrier, un âne. Ça nous apprend peut-être à voir les choses autrement. Nous, parfois, on attend, on aimerait les belles entrées triomphales, vous savez. Le Seigneur dit, non, 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 avec un petit âne, c'est bien. Ça te laisse le temps de réfléchir, il ne va pas trop vite. Parfois même, il s'arrête. Il ne veut pas avancer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a des ânes? Moi, je me rappelle, j'étais enfant, il y avait une personne et il avait un âne. Et quand l'âne, il ne voulait pas marcher, il ne marchait pas. T'avais beau tirer, il pointait des pieds, il ne marchait pas. Et là, moi je vois que le Seigneur n'a aucune difficulté à faire avancer ce petit âne, agir, avancer. Alors si Jésus en a besoin, Jésus a su identifier un besoin, il l'a exprimé. Le texte nous dit que les hommes ont amené à Jésus l'anneau, et à mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Qui aurait jamais imaginé, et jamais il aurait pu imaginer cet anneau de se retrouver un jour au centre de l'attention de tout le monde? Non? On ne sait pas quelles sont les surprises que Dieu nous prépare. Ça peut bien aller. Ça peut se terminer mal, non? Mais l'important, c'est de répondre aux besoins du Seigneur. Le texte nous dit que, en voyant Jésus arriver, à fur et à mesure qu'il avançait, les hommes jetaient, étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et là, on voit que les hommes, ils l'accueillent comme un roi. Ils ont identifié en Jésus quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui a pouvoir, puisqu'ils connaissaient les miracles. D'ailleurs, les disciples, dit la parole de Dieu, à fur et à mesure qu'ils avançaient, les disciples louaient Dieu, saisis de joie. Et ils annonçaient, et ils se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Combien de miracles ont-ils vus? 1, 2, 3. Moi, quand je lis la parole de Dieu, tous les jours, il y avait des miracles. Amen. Et là, ils se trouvent amenés à louer Dieu, à reconnaître, à glorifier Dieu pour tous les miracles que Jésus avait accomplis. Alors, il est question d'adorer le Seigneur, de le recevoir de la bonne manière. Ils disent, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, certains ont reçu, ont accueilli Jésus de la bonne manière, mais le texte il nous parle aussi de ceux qui, à quelque part, ils n'étaient pas contents. C'était qui? Les religieux. C'est toujours un problème, non? Je me rappelle qu'un jour, j'ai dit à quelqu'un que je suis contre la religion. Il m'a dit, c'est pas possible, vous êtes pasteur. J'ai dit, oui, tout à fait, je suis pasteur et je l'assume. Et je suis contre la religion et je l'assume, mais c'est pas possible. Je dis oui, c'est tout à fait possible parce qu'aucun cas Dieu nous invite à adhérer à une religion, mais à vivre la foi. C'est pas la religion qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est les religieux qui ont mis Jésus à la croix. Alors que Dieu nous garde de devenir des religieux. Parce que quand on en arrive là, on ne voit plus Jésus comme maître et seigneur. Et même ceux qui peuvent parler de lui, annoncer sa bonté, peuvent parfois même nous déranger. Et d'ailleurs, c'est le cas. Alors ils disent, mais Seigneur, étonnant, ils l'appellent Seigneur, mais ils ne le reconnaissent pas comme tel. Maître, encore moins. Reprends tes disciples. Ce qu'ils disent nous dérange. Et Jésus leur dit, attention, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Moi, je crois que cette parole de Jésus, elle est encore véritable aujourd'hui. N'est-ce pas? Ça serait particulier qu'à un certain moment, les pierres parlent. Non? Vous savez, les choses qu'on peut écrire sous la pierre, on dit qu'une fois que c'est écrit, ça reste, ça demeure. Je me rappelle d'une pierre que j'ai lue à l'entrée d'une ville, en Suisse, à Bâle. Vous avez une porte en bois, une ancienne porte, c'était la porte de la ville. Le coin s'appelle Spalentor. Et je me rappelle qu'en visitant la ville, je rentre, là il y avait juste cette porte et il y avait une plaque écrite. Et sur cette plaque était noté que les Juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. C'était écrit et inscrit dans la pierre. Les Juifs n'ont pas le droit de rentrer dans la ville. L'humour de Dieu, c'est qu'aujourd'hui la ville appartient aux Juifs. Et la muraille, il n'y est plus. Il y a juste la porte. Qui témoigne et qui témoigne de quoi? Du refus des hommes ou de la grandeur de Dieu? Alors vous savez, quand la Bible dit que si nous on se tait, les pierres crieront, moi je le crois. Parce que par différentes manières, Dieu peut nous parler et nous interpeller. Alors Jésus dit quelque chose à ces hommes. Mais si Dieu, dans la bonté, dans sa miséricorde, a désiré que Jésus rentre dans la ville de cette manière-là, si ce passage nous parle de cet ânon qui, certes, réputation peut-être de têtu et pas super intelligent, il se plie à la volonté du maître, l'entrée de Jésus ne passe pas inaperçue, car en réalité, les hommes ont besoin de lui, ils ont besoin du roi. On a besoin du roi. Un roi qui prend soin de ses sujets. Il dit qu'il était loué pour tous les miracles qu'il avait accomplis. Ça serait merveilleux d'avoir un roi qui accomplit des miracles, non? Vous imaginez? Moi, je pense que ceux qui gouvernent les pays aimeraient être des hommes qui font des miracles. En général, on voit plus de désastres que d'autres choses. Mais bon, ça c'est un autre point. Mais là, c'est un homme qui est pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu, qui prend soin de ses sujets. Un roi qui gouverne avec justice et équité. Un roi qui n'opprime pas ses sujets, mais qui leur apporte bonheur et bénédiction. Un roi avec un royaume de paix. Et ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est la dernière partie, où d'un coup, après ce moment de louange, de gloire, ce moment où Jésus est amené comme un roi, on sait ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre après. C'est plus le roi qu'on accueille, c'est celui qui va payer, c'est celui qui est rejeté. Mais Jésus le savait très bien. Ça prouve aussi que le cœur des hommes est volatile. On change vite de camp. Si là, il criait « Vive le roi !» le jour d'après, c'était à mort. Non ? Crucifie-le ! Les religieux avaient conditionné les hommes à crier pour que Jésus, finalement, soit mis à mort. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus, s'il a fait tout ça, c'était pas pour se donner un moment de gloire, non. C'est parce que finalement, le besoin qui était identifié, c'est le besoin qui est le nôtre. D'ailleurs, il dira, si tu connaissais toi aussi en ce jour, ce qui te donnerait la paix. On peut avoir l'occasion finalement de voir Jésus dans sa gloire, de voir Jésus annoncer, proclamer, d'entendre les miracles de Jésus et pour autant rester avec un regard voilé et ne pas accepter, ne pas reconnaître que c'est lui qui peut nous donner la paix. Et il est le cas là où Jésus dit « Mais attention, tout ça pour l'instant est caché à tes yeux ». Et Jésus, là, il prophétise sur la ville de Jérusalem. Ce qu'il va dire, là, Jésus, ça s'est accompli. Hein. La ville a été détruite pleinement. Il n'y a pas eu pierre qui est restée sur pierre. Et il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce qu'on connaît nos besoins? Est-ce qu'on reconnaît nos besoins? Jésus a eu le courage de dire... Le maître en a besoin. Jésus nous dit, vous savez, vous avez besoin de paix. Qui a besoin de paix? Qui a besoin de calme, de grâce? Hein? Vous savez, ces moments où, peut-être rares, je ne sais pas pour vous, mais où en effet vous dites, j'ai pas de problème. Waouh! Waouh, j'ai pas mal à la tête aujourd'hui. J'ai pas mal où que ce soit. Je suis au calme, c'est paisible, c'est calme. Vous savez ces journées où vous dites, tiens, je vais le marquer en rouge sur le calendrier. Mais qui va au-delà de la paix et du calme que nous pouvons trouver juste pour vivre une bonne journée. C'est surtout de la paix intérieure dans notre cœur, parce que les plus grandes tempêtes et les plus grands tsunamis sont dans notre cœur, dans nos sentiments, dans notre âme. Quand on a un problème, ça se bouscule où ? Dans la tête, dans les pensées, dans les sentiments, et là, on a besoin de trouver la paix. Et là, Jésus, il est en train de leur dire, mais vous savez, vous allez vivre des choses terribles. Et Jésus nous dit, attention, à tous les hommes, vous allez connaître des choses terribles parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce qu'on reconnaît le temps qui est devant nous? Je recherchais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait bien décrire ce que j'aimerais dire avant que ce soit trop tard? Parce que vous savez, parfois ça peut devenir vite, très tard, trop tard. Et d'un coup m'est venue cette image du Titanic. Vous connaissez l'histoire du Titanic? Alors l'histoire de ce navire est connue. Il y a une réputation, vous savez qu'un des constructeurs, un des ingénieurs, avait dit « même Dieu ne pourrait pas faire couler le Titanic. Un glaçon suffit. Hein? » Mais alors je me suis imaginé, parce que ces paroles étaient dites dans un temps où en tous les cas, ouvertement, on pouvait proclamer la foi, on annonçait l'évangile, hein? Et on voyait ces personnes monter sur le navire inconscients, insouciants, parce qu'ils avaient entendu que le bateau était le plus sûr au monde. Jamais il y avait eu un bateau comme ça, même celui de Noé. Pourtant, Noé n'a pas coulé. Non ? Et les constructeurs étaient tellement sûrs de leur affaire, de leur technique, de leur innovation technologique, que ce bateau qui était énorme, qui pouvait accueillir 3464 personnes avec l'équipage, en effet, ils avaient prévu que 20 canots, au cas où il devait y avoir un problème, parce que pour eux, il ne devait pas y avoir de problème. Non ? Et alors, je me suis imaginé quelqu'un sur le quai qui disait à ceux qui montaient sur le bateau, « Monsieur, madame, je vends des gilets de sauvetage, je vous offre des gilets de sauvetage. » Alors vous imaginez, vous montez sur le plus beau des bateaux, hein, connu avec une réputation incroyable, il peut pas connaître le fond de la mer, et quelqu'un est prêt à vous offrir un gilet de sauvetage. Qu'est-ce que vous dites ? Hein, vous rigolez, vous dites, si c'était ça, moi je ne montais pas. Pourtant, quand vous allez, vous prenez votre avion. juste pour vous le dire, vous avez un gilet qui est juste sur, sur votre siège. Et avant de partir, vous y avez une demoiselle qui vous montre quoi faire. Alors là, il vous avertit. En général, on est déjà plongé sur notre téléphone pour dire au revoir, j'arrive bientôt, ne t'inquiète pas, tout va bien. Hein ? Moi, je me rappelle, j'ai fait un voyage avec un frère qui stressait. Il stressait. Et d'un coup, devant nous, il y avait une personne qui stressait au point que, alors que l'avion allait décoller, il s'est détaché, il a commencé à bouger. On a dû le choper au vol, l'asseoir. Et après, finalement, le personnel est venu, il l'a calmé parce qu'il s'agitait. Je me suis dit, ça suffit qu'il veuille ouvrir une porte. C'est pas le moment. Et ce frère me dit, écoute, là, il y a la porte de secours. Moi, je me mets à côté de la porte. J'ai dit, mais non, c'est pas juste. L'amour fraternel, c'est que tu devrais me laisser la place. J'ai dit, une fois que je suis passé, t'inquiète pas, je te tire. Il dit, non. D'abord, je sors et après, je prierai pour toi. Hein ? Comment on peut être avec l'amour fraternel ? Mais pour revenir à notre bateau, alors quelqu'un vous propose un gilet de sauvetage, un canot, vous dit non, pas besoin. Attends, t'as vu le bateau ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un petit canot ou avec un gilet de sauvetage ? Non, tout le monde a rigolé. Tout le monde a ri. Jusqu'au moment où. Et vous savez, quand il y a eu cet accident fameux, l'équipage n'a pas été informé. Les gens n'ont pas été informés pour pas créer un fond de panique. Notre monde va droit au mur, mais on essaie de rien dire pour pas créer un vent de panique. Tout va bien. Et il n'y avait que 20 canots de sauvetage qui pouvaient, au plus gros, accueillir, alors je ne sais pas la taille des canots, mais j'ai cherché un peu, ils pouvaient accueillir jusqu'à 1178 personnes. Et les premiers à être mis sur ces bateaux, c'était les grandes richesses, ceux qui avaient un nom connu. Mais quand je regarde la parole de Dieu, moi je vois que Jésus ne tient pas compte ni de la richesse des hommes, ni de la position des hommes. L'histoire du Titanic, elle est connue, et la fin, tragique, elle est bien connue, s'est produit quoi ? Alors, est-ce qu'on apprend des histoires ? Est-ce qu'on retient des histoires ? Là, Jésus est en train de dire au peuple d'Israël, au peuple de Jérusalem, faites attention parce que voilà ce qui va se passer, combien ont cru à Jésus. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que le temps de la fin sont proches. Est-ce que nous, on croit aux avertissements ou est-ce qu'on rigole parce que quelqu'un nous dit, tu sais, t'as besoin d'être sauvé. T'as besoin de Jésus. Ah mais non, moi j'ai le Titanic. Ah non, mais moi je me suis fait mon petit navire à moi. Vous en avez qui creusent sous terre pour se faire des bunkers. Vous en avez d'autres, ils ont acheté une montagne, ils ont creusé dans la montagne pour se protéger. Mais au moment de la fin, qui pourra se protéger ? La seule chose qui pourra nous donner une assurance, c'est d'avoir accepté le salut que Christ nous propose. Il est question encore pour nous de reconnaître, comme il a été le cas pour eux, de dire, est-ce que tu reconnais le temps où tu as été visité? On ne sait pas le temps qui nous est donné de vivre, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez déjà la date, vous? Non? Heureusement. Parce qu'on vivrait mal si on savait déjà la date, n'est-ce pas? Mais tout autant, ça nous amène à une certaine responsabilité. Est-ce que j'ai préparé ma vie pour l'éternité? Est-ce que j'ai pris mon sérieux, le gilet de sauvetage de ma vie spirituelle? Ou est-ce que je fais comme le peuple qui, à un moment, voit le roi, le reconnaît, le salue, se réjouit, lui tend même ses habits pour le mettre par terre, mais le jour d'après, il le crucifie, il le rejette. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? La question, elle nous concerne, nous, aujourd'hui. On pourrait dire oui, mais les autres? Non. Aujourd'hui, c'est entre vous et Dieu. C'est votre cœur avec le cœur de Dieu. Parce que c'est auprès de vous que le Seigneur s'approche aujourd'hui. Alors est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, moi je veux te suivre. J'ai mis dans mes notes, ne faites pas l'erreur de passer à côté du salut pour vous, mais aussi pour les vôtres. Moi j'imagine tous ces gens qui auraient voulu pouvoir monter sur ces canaux, mais ils n'ont pas pu. Ils ont sombré. Pas moyen de salut. Ce qui était pour eux une assurance est devenu pour eux la fin de toute chose. Beaucoup aujourd'hui sont assurés des discours du monde, sont assurés de ce que le monde propose, et n'écoutent pas ce que Dieu est en train de dire. Et je pense que Dieu connaît bien mieux que nous, pas seulement le passé, pas seulement le présent, mais l'avenir. Et l'avenir de chacun de nous. De la même manière qu'il savait, Jésus, où se trouvait le petit ânon, le Seigneur sait où on se trouve chacun de nous. De la même manière qu'il savait qu'est-ce qu'il fallait répondre à cet homme, le Seigneur a les réponses que vous avez besoin dans votre cœur. De la même manière que le Seigneur voyait déjà ce qui allait se passer pour Jérusalem, le Seigneur sait ce qui va se passer pour le monde entier. On peut faire semblant de rien. On peut continuer notre chemin en considérant que nous sommes invincibles, insubmersibles. Hein? Ou on peut dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Le maître en a besoin, mais est-ce que vous avez besoin du maître? On va fermer nos yeux quelques instants.